talmudique. Un jour, un mot vous éveille, vous réveille, vous emporte, vous questionne, vous séduit. Un jour, vous vous retrouvez face à l'énigme d'une sonorité exotique qui vous donne envie d'ouvrir des dictionnaires, de chercher des racines, de reprendre vos études de grec et de latin, d'hébreu, de yiddish ou d'araméen. Un jour, vous voilà parti sur les ailes de quelques lettres qui, vous ne savez pas pourquoi, vous invitent au voyage, vous motivent, vous pulsent, vous dynamisent et vous donnent le désir de la recherche, de la lecture et vous fait entrer dans la danse du sens, dans la chance d'une nouvelle compréhension du monde. Un jour, le jour se lève et le vent du matin vous offre un mot fenêtre, un mot porte qui fait entrer le soleil, le goût du sable et du désert, le rythme du fleuve et le chant des blés, les profondeurs d'une mémoire, l'inquiétude aussi. Un jour, une lettre chante devant vos yeux et raconte l'amitié, le sourire, le labour, les chants, l'éclair, la lumière et la rupture, le rire, la joie de penser, la volonté de traverser un pont, d'aller de l'autre côté, à la découverte de tout, de rien, simplement marcher, écrire aussi. Un mot qui vous emmène en croisière, vous surprend, vous archéologise, vous banquise, vous polaire et vous zigzague. Vous devenez philosophe, sensible et joyeux, attentif et plus sérieux. Un jour, un mot vous transforme et vous n'avez qu'un souci, partager cet inouï, cet inattendu, le raconter, le faire comprendre, le faire vibrer. Ces mots sont nombreux et chacun en fait un jour l'expérience. Ils modifient une vie, ouvrent de nouveaux chemins, de nouvelles rencontres, font jaillir de nouveaux chants et de nouvelles musiques. Ce fut pour moi Mahloket, Tsimtsum, Tikkun, Kuzu ou encore Zegma. Et depuis, je suis très sensible à ces lexiques personnels et je suis heureux de pouvoir les entendre, les comprendre, car ils racontent toujours une histoire, des histoires. Céline Masson, Georges Perla, bonjour.
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 Céline Masson, Georges Perla, je pense que ce que je viens de dire ne vous laisse pas insensible, car vous aussi, vous vous êtes chacun à votre façon laissé porter depuis des années par l'expérience mystérieuse de ces mots-fenêtres et de ces mots-portes qui, avec le temps, ont tracé un beau et long chemin de rencontres intellectuelles et artistiques qui vous ont construit et qui vous ont conduit sur la route de soi. Comment tout cela a commencé, Céline Masson ?
Alors, vous parlez des mots et je vais dire que c'est des petits mots qui m'ont intéressé, interpellé. Ces petits mots sur la route de soi, ces petits mots qu'on a sous la langue. Et effectivement, ce mot, c'est ce mot schmatès. J'ai rencontré ce mot à l'occasion d'une exposition. Et c'est ma rencontre avec Michel Nedjar. J'allais voir une exposition de Jean Rustin à la Halle Saint-Pierre en 2001. Et j'ai été happée véritablement par de la sombritude. Et une exposition de Michel Nedjar, j'ai été happée par cette exposition. J'entre et je vois ces poupées faites, je le saurai après, de schmatès. Mais c'est surtout ce petit mot à la verticale de la vie que je vois là dans cette exposition, ce mot de schmatès. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce petit mot-là fait dans cette exposition? Qu'est-ce qu'il fait là? Évidemment, c'est aussi toute mon histoire qui était relevée là.
Alors schmatès s'est poursuivi avec d'autres mots, d'autres petits mots, comme vous dites, d'autres colloques, d'autres rencontres, événements. Il y a eu Panim, Balagan, et vous revenez aujourd'hui avec un nouveau mot, événement, Pilpoul. Qu'est-ce que Pilpoul? Qu'est-ce que le Pilpoul? J'ai envie de dire d'abord où et quand. Céline Masson, et d'abord qui vous êtes, parce que je ne vous ai pas présenté.
Alors, je suis donc professeur des universités, je suis psychanalyste. C'est peut-être de cette place-là aussi en tant que psychanalyste que j'entends les petits mots. Pilpoul, c'est une rencontre, là aussi. Donc, c'est ma rencontre avec Racinta. On a fait cette route ensemble depuis ces quelques colloques, puisque c'était des colloques jusqu'à présent. Et je me suis dit que ça serait pas inintéressant de créer un autre dispositif. Pilpoul est un autre dispositif. C'est un dispositif expérimental qui a la fragilité d'une expérience. Je crois que c'est vraiment une expérience. C'est une expérience, une aventure collective avec des chercheurs et avec des artistes. C'est un petit peu ça qui est inhabituel, c'est qu'on a travaillé ensemble, chercheurs à l'écoute des artistes et les artistes à l'écoute des chercheurs. Un peu un pile-poule, alors vous le définirez sans doute mieux que moi, c'est vraiment pour moi ce va-et-vient, c'est cette gymnastique intellectuelle, comme dit Francine Kaufmann, solitaire, mais là on était ensemble, donc cette gymnastique que l'on a fait ensemble, où l'un amenait un argument et l'autre un contre-argument, à partir de cette question du geste. Donc là aussi, ce geste je peux peut-être en parler. Quel est ce geste, puisque cet événement, je ne sais même plus comment l'appeler, si ce n'est pile-poule, cet événement, c'est l'empreinte d'un geste. Et c'est parti d'une rencontre, là encore, avec Gorana Bulat Mananti. Gorana Bulat Mananti est psychanalyste. Et un jour, à l'occasion d'un déjeuner, elle me dit « Mais tu sais, tous les matins, en sortant de chez moi, j'embrasse la porte de ma maison. » Et elle me dit « Ma mère m'a toujours dit, embrasse ta maison pour la protéger. » Elle fait ce geste depuis toute petite, depuis l'âge de 7-8 ans. Et un jour, elle devient donc psychanalyste et elle est avec son amie psychanalyste, juive, qui fait ce geste d'embrasser le lin tout droit de la porte, avec, évidemment, en embrassant la mezouza. Gorana, à ce moment-là, tombe en larmes, elle fond en larmes, et elle dit « Mais alors, c'était ça. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose là. » Elle découvre, en interrogeant son père, qui est en ex-Yougoslavie, son père qui était, c'est juste la veille du déclenchement de cette guerre en ex-Yougoslavie, son père lui dit, tu sais, nous avons des origines juives. Et là, il lui montre un certificat de conversion. Elle apprend à ce moment-là qu'elle est issue d'une famille marane.
Tout cela, vous allez le montrer dans cet événement, conférence artistique. Pile-poule, ça se passe où et quand ?
Donc pile-poule, ça aura lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 19 mai, dimanche 19 mai, de 11h à 17h. C'est un dispositif qui est conçu en trois tableaux. Donc là encore, il ne faut pas s'attendre à un colloque. C'est vrai qu'on a peut-être l'habitude de venir à un colloque et d'écouter des chercheurs et aussi des artistes, puisque des artistes ont pu intervenir dans nos colloques, dans les précédents colloques. Là, c'est différent, c'est très différent. Finalement, je ne sais pas bien encore ce que c'est, mais je crois qu'il faut se laisser surprendre.
Alors, pile-poule, c'est un mot, je dirais, qui est beau, qui est léger, qui est enfantin. Il me fait penser à cette phrase de Pierre Fédida, parlant de l'objet de Francis Ponge, un événement de mots dans un éclat de rire de choses. En hébreu, pile, c'est un éléphant, et poule, c'est une fève. Agnon, le grand écrivain israélien, prix Nobel de littérature en 1966 avec Nelly Sachs, disait toujours que pile-poule doit se comprendre comme ce travail de l'esprit de celui qui est capable de transformer un pile en poule et un poule en pile, de transformer un éléphant en fève et une fève en éléphant. Il disait en hébreu, mi sheose mi pile-poule ou mi poule-pile. Magie de l'imaginaire qui rappelle en passant qu'en français, image et magie s'écrivent des mêmes lettres. Comment mettez-vous en œuvre la magie des images dans ce spectacle pile-poulesque? Quel texte avez-vous écrit pour ce spectacle et que dites-vous sur scène ou dans la salle Georges Perlat? Et qui êtes-vous, vous aussi?
Moi, je raconte avec des mots, je joue avec des mots, avec mon corps, je fais des images. Et pour en revenir un petit peu à...
Donc vous êtes comédien et conteur.
Comédien, conteur... J'écris aussi pour le théâtre, metteur en scène aussi. Mais pour en revenir à pile-poule, j'écoute attentivement ce que vous dites. Il y a aussi un élément surprise. C'est-à-dire de voyager ainsi, de passer ainsi d'une intervention des chercheurs à un chant, à une danse, puisqu'il y a aussi des danseuses, à un extrait de théâtre, à un conte, une histoire. L'esprit voyage et passe d'un point à un autre. Et le sens jaillit, naît. C'est ça la magie peut-être, hein. C'est la magie du sens, comme ça. Mais une histoire, non?
Allez-y.
Un texte qu'on rencontrera à pile-poule. Mon père était tailleur sur mesure, il travaillait dans la confection, le schmattes. Il avait l'habitude de ramasser ce qu'on avait abandonné sur le trottoir, ou ce qu'il troquait aux puces de Clignancourt. Des machines à écrire qui n'écrivaient plus, des machines à coudre en panne, des horloges arrêtées, des statuettes en bronze qui soutenaient des lampes de chevet qui ne s'allumaient plus, parce que ça peut toujours servir. Parce qu'un jour, mon père prendra le temps et ça marchera. Mon père ramassait en particulier les vieux livres et les journaux oubliés qu'il recueillait dans la poubelle, les salles d'attente ou encore à la rue du Paradis. Oui, parce qu'à la rue du Paradis, on y trouvait le Neue Presse, le Unser Wort ou le Unser Stimme, la presse nouvelle, notre parole, notre voix. Il les rangeait pêle-mêle à la boutique avec les complets sur mesure, les rouleaux de tissu, les vêtements à retoucher et les vêtements que les clients avaient oubliés. « T'y vois, me disait-il, quelqu'un a pris la peine d'écrire, on ne peut pas laisser ce qu'il a écrit sur les trottoirs, on ne peut pas. Et il ajoutait, ça peut servir, regarde, il y a peut-être un bon livre pour toi, peut-être. Le soir, de retour à la maison, mon père s'installait à la table de la cuisine, il mettait ses grosses lunettes, il humectait lentement les pages avec son doigt et, dans les verres de ses lunettes, quelque chose brillait. Le monde entier s'était absorbé dans le livre. Plus tard, j'ai cherché à retrouver cette infusion du monde dans le livre. Quand je feuilletais par hasard un livre, pas un livre nécessairement ancien ou vénérable, ça pouvait mettre une recette de cuisine. Il arrivait que je m'arrête surpris par une page, un paragraphe, un mot, et je restais là, attrapé par les caractères du texte.
Siete modos de guisados, se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de merengena. ¡Qué rico! La segunda que la guisa es la mujer del chamás, la cabaca por ariento y la hinchi de aroma. Esta comida la llaman la comida la dolma, esta comida la llaman la comida la dolma. La tercera que la guisa es mi prima Esther de Chiotti, la cavaca por ariento y la hinchi de rosmoti. Esta comida la llaman la comida la almondrotti, esta comida la llaman la comida la almondrotti. Ay, mi tío Chera, sí, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho bien a él le vino.
Nous sommes en train d'entendre Jacinta, qui sera présente hommage dimanche prochain à vos côtés pour ce grand jour de Pilpoul, un chant en judéo-espagnol qui introduit au premier des grands tableaux consacrés au Maran et crypto-judaïsme. Comment s'est faite pour vous cette rencontre avec cette question Maran, Céline Masson?
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette rencontre avec Gorana, parce que c'est vraiment ce geste-là d'embrasser la mezouza qui a été finalement le texte, j'allais dire, fondateur de notre Pilpoul. Donc on a pensé ces trois tableaux, donc ce premier tableau effectivement des juifs, des crypto-juifs et de ces gestes donc perpétués, j'allais dire, de génération en génération, qui ont finalement perdu du sens parce que Gorana pensait que c'était un toc. Elle croyait qu'elle faisait ce geste parce que c'était une névrose obsessionnelle. Or, finalement, ce geste avait du sens. Il venait rappeler l'histoire de sa famille. Et elle dit d'ailleurs, ce geste rescapé du passé. Donc, l'idée, c'est de partir effectivement de cette période des crypto-juifs. Trois chercheurs vont aborder ces questions, Joël Alouche-Benayoun et Cyril Aslanoff. Également André Le Rousseau par des textes de Nelly Sachs d'ailleurs, qui vont ponctuer un peu différemment, poétiquement, ce premier Pilpoul, ce premier temps de Pilpoul. Mais on va effectivement reprendre donc ces gestes maran, voilà, en dialogue avec la danse, la danseuse qui va faire ces gestes-là. Voilà, autour, on a construit une porte qui va servir, j'allais dire, qui va ponctuer aussi ces temps sur scène, notamment par les artistes, puisque ce sont les artistes qui sont sur scène pendant les deux premiers tableaux. Les artistes sont sur scène, comédiens, danseurs, il y a les portraits filmés sur l'écran, les chercheurs sont dans la salle, c'est là peut-être un peu là, on a nuancé un peu en donnant une autre place aux chercheurs qui seront depuis le public, qui parlent depuis le public. Et donc, en dialogue avec les artistes qui sont sur scène. Donc, ce premier temps-là va vraiment donner du sens à ces gestes-là des crypto-juifs. Alors,
Et donc il y a un second tableau, la question Maran pose la question de l'identité, une question que vous poursuivez par un second tableau qui aborde la question de l'intégration des Juifs dans la société française, Céline Masson.
Tout à fait. Donc ce premier temps de ces gestes, j'allais dire, cultuels, pour passer ensuite à des gestes, des styles familiaux, j'allais dire, des gestes qui font partie des familles juives. Alors on a marqué un temps historique. Le deuxième tableau s'ouvre sans déflorer trop non plus le programme, mais le deuxième tableau s'ouvre par une Marseillaise un peu particulière. Alors c'est une Marseillaise écrite par un rabbin, le rabbin Ben Baruch, dit Créange, qui est un nom effectivement certainement adopté après 1808, lorsque Napoléon demande aux Juifs de prendre des noms français, des noms fixes, hein, puisque c'était des noms hébreux. Et c'est un rabbin qui était un peu particulier, qui était en rupture de banc avec le consistoire et qu'il critiquait. Donc une sorte d'électron libre dans ce franco-judaïsme. Et il décide, trouve extrêmement intéressant la Marseillaise, mais il la détourne et il écrit une autre forme de Marseillaise, dite Marseillaise du travail.
Georges Perla, vous pourriez nous en donner une lecture de cette Marseillaise du travail, fruit d'un électron libre.
Allons, enfants de la patrie, le jour de grâce est arrivé. De l'universelle harmonie, l'étendard sublime est levé. Entendez-vous dans ces campagnes, les chants du peuple travailleur? Comme ils réjouissent le cœur de nos filles, de nos compagnes, à l'œuvre, citoyens. Formez vos ateliers, chantons, gloire au travail, honneur aux ouvriers. À vos parias, à vos esclaves, peuple, rendez la liberté. Plus jamais d'ignobles entraves, plus de fer pour l'humanité. Français, ce sera votre ouvrage, quel transport il doit exciter. C'est vous qu'on a vu décréter l'arrêt de mort de l'esclavage. À l'œuvre, citoyens, formez vos ateliers. Chantons, gloire au travail, honneur aux ouvriers.
Cet air Klezmer endiablé, une création de Pierre Wegstein avec son groupe Klezmer Nova, nous rappelle, si cela était nécessaire, que le judaïsme, ce n'est pas seulement l'Espagne et les Maranes, ni seulement la diaspora espagnole qui fit suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne, ni seulement les Juifs intégrés en France au XIXe siècle, ni la liste est longue, mais c'est aussi la carpe dans la baignoire de votre grand-mère et de tous ces personnages du shtetl cher à Shalom Aleichem. C'est le Yiddishland et sa culture musicale, littéraire, théâtrale, sportive, sans oublier le chassidisme et le bunt et mille autres choses qui nous rappellent que le judaïsme, c'est d'abord une culture avant de se réduire à une dimension purement rituelle et religieuse. Pilpoul veut en être un des témoins forts. Céline Masson.
Alors, juste pour dire, effectivement, cette Marseillaise va être mise en bouche par la cantor et cantatrice Sofia Falkovitch et klezmerisée par Pierre Wegstein. Voilà. Effectivement, c'est ce temps-là de l'entrée. En fait, on a voulu marquer cette entrée dans la République, qui va être incarnée, cette République, par une sorte de prosopopée que représentera Isabelle de Mecknem, qui est philosophe moral et politique. Et elle va présenter ces textes-là du rabbin Créange. C'est un temps qui va nous permettre de montrer que les Juifs, donc, sont très dévoués à la France, entrent dans la France et veulent devenir français, très français. Et c'est ce qui va ouvrir ce deuxième tableau où on va entrer dans les familles juives, dans les salons des familles juives, dans les années 60-70. Et donc, ce temps-là va être joué, alors de manière surprenante peut-être aussi, par les comédiens, mais aussi par une psychanalyste, Régine Van Treiter, qui va jouer, j'allais dire, sa grand-mère et la carpe dans la baignoire.
Comment ça se passe, la carpe dans la baignoire?
Ah, c'est une drôle d'histoire, parce que c'est... On va pas tout dévoiler, quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est, pour revenir à Régine...
Mais expliquer déjà ce que c'est que la carpe dans la baignoire, parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu abstraites aujourd'hui, ou en tout cas, des mots, on a lancé des petits mots déjà compliqués, pile-poule, qui est donc cette manière de couper les cheveux en quatre, cette manière d'approfondir, pile-poule, ça vient d'un mot hébreu, pilpel, qui veut dire le poivre, qui est épicé, c'est montrer la subtilité de l'intelligence, allié à ces gestes rescapés, comme vous avez dit. Et puis, il y a ces gestes tout à fait étonnants qu'on a tous peut-être un peu vécu chez soi, en tout cas dans les familles ashkénazes. La veille de Rosh Hashanah, on met, comme il est une tradition de manger de la carpe farcie pour Rosh Hashanah, alors on allait acheter de la carpe farcie, de la carpe,
de la carpe farcie, vivante,
de la carpe vivante au marché, qu'on ramenait chez soi et que l'on mettait dans la baignoire, et que juste avant, elle était vivante dans la baignoire, et juste avant Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qui se passait juste avant Rosh Hashanah, Georges Perlin?
Elle terminait en quartier. Je vais pas vous expliquer toute la recette du gefilte fish, mais ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur gefilte fish que j'ai mangé, c'est celui de ma mère, comme d'habitude. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le gefilte fish, dans la carpe farcie, il y a la transmission, une transmission qui se fait à l'insu, sans le savoir. Et c'est un peu, en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu le judaïsme. C'est presque en dépit, sans le savoir. Et plus tard, puisque c'est le thème de pile-poule de cette expérience, c'est que la transmission se fait explicite, mais beaucoup implicitement. Et ça arrive par la nourriture, par les gestes, par les silences, par le « on ne sait pas ».
Alors c'est très beau ce que vous dites, parce que la carpe farcie pourrait être un symbole de cette dualité du savoir. Il y a la carpe que l'on voit à l'extérieur, c'est le savoir que l'on croit savoir. Et puis, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur, la farce de la carpe que l'on ne voit pas, ce qu'on appelle justement la farce, qui est une farce pas si drôle que ça, puisque c'est le savoir caché qui se transmet de génération en génération à l'insu par des petits gestes, un petit peu comme dans cette histoire que vous avez commencé à raconter, Céline Masson, sur la mezouza. Et moi, cela me faisait penser à des anecdotes que rapporte Albert Bensoussan, professeur émérite de littérature espagnole à l'Université de Haute-Bretagne. Il disait, mon ami Abraham Bengio raconte, lui qui vécut à Madrid avec ses parents, qu'il rapporte deux témoignages. Ayant invité des amis espagnols non-juifs à une bar mitzvah à la synagogue madrilène, l'un d'eux fut surpris de voir que l'on embrassait la mezouza en entrant. Il se souvint alors que chez lui, lorsque quelqu'un était malade, on lui demandait alors de sortir en franchissant la porte d'entrée, puis de revenir sur ses pas en posant la main droite tout en haut du chambranle de la porte, car, disait-on, cela portait bonheur. C'était la place de la mezouza absente, dit-il. De même, un autre témoin, quand chez lui quelqu'un était malade, on allait quérir dans une vieille boîte des lanières de cuir, un vieux cuir usé et loqueteux, et l'on posait ces lanières sur l'avant-bras gauche du malade pour que cela l'aide à guérir. C'était tout ce qui restait d'anciens tefilines, tefilines du bras, les tefilines du cœur, les phylactères. Céline Masson, nous sommes en plein pile-poule.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ces gestes, j'allais dire, c'est presque des gestes de survie. Hein. On le voit là, dans ce que dit, je reviens encore à Gorana, et effectivement, c'était presque nécessaire, presque comme un geste obsessionnel d'ailleurs, hein. C'est pour que ça tienne, quoi, pour que la maison tienne. Alors, quelle maison? De quelle maison il s'agit, quoi? Elle peut dire, effectivement, c'était que pour aussi sauver l'histoire, là où on les a forcés à se convertir. C'est-à-dire la vie ou la mort, quoi. Vous voyez, donc c'est des gestes qui ont sauvé quand même l'histoire et la mémoire.
Georges Perlin, cette mémoire qui passe par des gestes dont on ne se souvient plus, c'est une question. Vous avez évoqué la carpe farcie, ça c'est une mémoire insue, mais il y a des petits gestes comme ça, de génération en génération. dans votre famille, par exemple, oui. De vos parents qui sont venus de Pologne, qui arrivaient à la frontière, votre papa, monsieur Gitman de son prénom, arrive à la frontière et quand il dit au préposé qu'il s'appelle Gitman, c'est tellement compliqué qu'on l'appelle Germain. Et donc tout à coup, oui. Gitman Perla, Gitman tout vieux Perla va devenir Germain Perla. Ça transforme une vie, en tout cas des enfants. Comment vous vivez tout ça?
C'est quelque chose qui n'a pas arrêté de se prolonger, parce que ça, c'était mon père. C'est un peu cruel de l'appeler Germain Perla, après tout ce qu'il avait vécu. Pour ma mère, elle s'appelait Etel, en tchèque Eta. Alors on avait des courriers qui arrivaient, qui s'appelaient Établissement Perla. Et ma mère se retrouvait comme ça, avec une auréole de chef d'entreprise. Bonne mère de famille pour ses enfants. Voilà, mais c'est sans arrêt comme ça. C'est-à-dire, après on les reconnaît, c'est vrai. Mais plus tard, des dizaines d'années plus tard, comme le geste de se passer la main sur le visage quand mon père était préoccupé. Mais longtemps plus tard, j'ai compris que c'était la barbe qui n'était plus là, quoi. Et le rapport qu'il avait au livre, un rapport à partir du moment où quelqu'un avait étudié, c'était un professeur. Et puis d'autres choses, ça arrive dans tous les en désordre hein, dans la vie. Par exemple, un jour, je suis arrivé à la maison, il était en train de lire un livre de Maïmonide en français. Et il n'était jamais passé par l'université. Hein. Je lui dis, mais tu comprends ce que tu es en train de lire? Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Etc, etc. C'est sans arrêt. Et bon, les années passent et à chaque fois, j'ai des retours de mémoire, comme ça, de gestes qui n'avaient pas de signification pour moi, qui éclatent, qui brillent dans la mémoire.
Et pendant la guerre, il était...
Il est arrivé en 34 avant la guerre parce qu'il fuyait la Pologne, parce qu'il était communiste, parce qu'il était juif, et il s'est mis à porter l'uniforme français pour sauver sa peau. Et ma mère est arrivée en sortant d'Auschwitz en 46, 47, parce qu'elle pouvait plus revenir chez elle puisqu'il n'y avait plus rien. Voilà.
Céline Masson.
Alors, il faut quand même dire que le monde séfarade est relevé aussi à Pilpoul. On a mis du sel et du poivre, mais du piment, voilà, du piment aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi tous ces gestes dans les familles séfarades qui vont être incarnés un peu par notre comédienne d'origine séfarade, Joanne Toledano. Voilà, donc on relève aussi ces gestes-là qui ont fait la route d'ouest en est et de nord au sud. Je pense que c'est important de le dire aussi, parce que moi-même, mes gènes, pour reprendre l'expression d'Aldo Nauri la semaine dernière, remarquable, mes gènes aussi ont trempé, non pas dans le borscht, comme il dit lui, mais dans le gefilte fish et dans le couscous. Donc il fallait représenter ces deux mondes.
Et il y a un troisième tableau qui vient après, donc le premier tableau des crypto-judaïsmes, le deuxième tableau de l'intégration des juifs au XIXe siècle,
Au 20e, oui. Et leurs gestes et le corps dans ces gestes dans ces familles, ces gestes culturels, c'est important de le dire, ces gestes qui ont donné des styles familiaux. Et le troisième tableau, l'idée, c'est de renverser, on est dans ce seront les gestes de transgression chez l'artiste. Finalement, qu'est-ce que sont ces gestes-là de création? Et là, je me suis inspirée aussi de Michel Nedjar à nouveau, puisque...
Qu'on avait reçu dans cette émission.
Voilà, tout à fait. Qui dit, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la Shoah. À 13 ans, sa mère lui dit, viens voir ce qu'on a fait aux Juifs, et il voit Nuit et brouillard. On sait qu'il s'est inspiré aussi de ce film, mais il dit, c'est pas seulement ça. C'est aussi cette poupée, c'est lui qui aimait jouer aux poupées, etc. Comment il a retourné le ciseau, c'est-à-dire qu'il en a fait autre chose. Il continue à utiliser les ciseaux, le faire à repasser, mais pour faire autre chose. Donc, comment ces poupées-là, comme il dit, ils l'ont sauvé de la fosse, quoi, l'ont tiré de la fosse.
Encore une petite étincelle d'histoire, Georges Perla, pour terminer.
Au septième ciel, près du trône de Dieu, il y a une chambre où sont gardées toutes les âmes du monde à venir. Là, les âmes grelottent comme des flammes, car elles attendent toutes tremblantes leur naissance. Elles se tiennent liées les unes aux autres exactement comme les lettres du livre. Au moment de leur naissance, les âmes tombent, elles chutent, dispersées comme les gouttes de pluie sur la terre. Quand elles arrivent sur le sol, elles s'incarnent dans les choses et dans les corps. Et là, elles reçoivent un corps, un cœur. Dès qu'une âme a reçu un cœur, elle se met immédiatement à la recherche de l'âme à qui elle était liée autrefois. Parfois, elle la trouve, parfois, elle ne la trouve pas. Voilà, c'est pour cela qu'en marchant le long d'une route, on est pris parfois du désir de prendre, soudain, un galet sur le sol. On tient la pierre dans le creux de la main et on sent combien la rondeur du galet épouse parfaitement la rondeur de la paume. C'est ainsi parce que l'âme de la pierre était liée à l'âme de la main il y a longtemps, si longtemps que nous l'avons oubliée.
Merci Céline Masson, merci Georges Perla pour cet apéritif épicé, pour ce pile-poule, ce pile-pelle, ce pile et ce poule. Je ne sais pas s'il y aura des éléphants dimanche prochain au musée d'art et d'histoire du judaïsme, mais ce que je sais, c'est que ce sera un grand événement. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles, selon la formule traditionnelle. Merci pour tous ces petits mots que vous avez su faire briller de tout leur feu. Merci pour les schmatas, le balagan et autres panim. Merci pour la Marseillaise revisitée, pour les étincelles d'histoire et la chaleur des galets qui chauffe les paumes de nos mains. Merci encore Céline Masson et Georges Perla.
Merci.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Jordan Fuentes. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouve, Le Hitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.